Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique.
Le climat, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra, je pense, toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
Grâce à mon invité du jour, vos plats végétariens ont une toute autre saveur. En tant que végétarien, on va pas se mentir, il y a certains moments conviviaux qui peuvent devenir un peu plus compliqués. À l'approche du printemps, la saison des barbecues commence. Quand t'es le végétarien de la bande, tu te retrouves souvent à manger la salade verte ou les pommes de terre. C'est souvent pas très fun. Alliant son envie d'entreprendre à sa volonté d'avoir un impact, Guillaume Dubois cofonde Les Nouveaux Fermiers en 2019. Leur objectif, proposer un substitut à la viande. Aujourd'hui, la viande, c'est 15% des émissions de CO2 dans le monde. Rien que ça. C'est d'ailleurs lorsqu'il en prend conscience qu'il décide de se lancer. Ensemble, on est revenu sur son engagement écologique, le choix de passer par la case conseil avant d'entreprendre, le challenge de lancer une boîte juste avant le Covid et sa vision de la gastronomie française, et notamment comment elle va être amenée à évoluer. D'ailleurs, lors de l'enregistrement, la start-up s'appelait encore Les Nouveaux Fermiers, mais depuis peu, s'appelle Happivore. Bonne écoute !
Je m'appelle Guillaume Dubois, je suis cofondateur de Les Nouveaux Fermiers. Les Nouveaux Fermiers, c'est la viande végétale française. Et donc l'idée, c'est de faire des produits qui ressemblent à la viande, mais qui sont entièrement du végétal. Et l'intérêt, c'est que c'est meilleur pour la santé, pour la planète, et bien sûr pour le bien-être animal.
Du coup, comment c'était venu l'idée de monter Les Nouveaux Fermiers? Est-ce que t'es toi-même végétarien ou?
C'est venu d'une volonté d'avoir un impact environnemental. On s'est rendu compte que la viande, c'est 15% des émissions de carbone dans le monde. Donc 15%, c'est énorme en fait. C'est une énorme partie en fait du problème. Et on voulait aider les gens à manger davantage de végétal. Et on a vu en fait que la viande végétale s'était beaucoup développée dans certains pays en dehors de la France. Mais qu'en France, ça s'était pas encore beaucoup développé. Et en fait, en France, on est très, en fait, on veut que ce soit bon. Vraiment que ce soit bon. On regarde beaucoup les aspects santé aussi en France. Et du coup, c'est pour ça que les produits, en fait, étrangers étaient pas trop rentrés en France. Parce que les gens étaient un peu suspicieux, en fait, de ce qu'il y avait dedans. Et nous, on s'est dit, bah, justement, travaillons beaucoup, beaucoup le côté gourmand des produits. Travaillons beaucoup l'aspect santé. Et ça va plaire aux gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a travaillé super dur. On a commencé par le steak végétal. Et on l'a fait tester à plein de chefs, on a vu que ça marchait super bien et du coup on a lancé la commercialisation.
On pourra peut-être revenir après plus en détail sur vos produits et, mm-hmm. et votre, voilà, vos produits. Juste avant ça, donc, si je ne me trompe pas, toi tu es shifter, donc tu as un engagement écologique qui date, oui. date de longtemps. Mais la question que je me posais, c'est que tu as un parcours plutôt ingénieur, tu t'es engagé en tant que shifter et tu as passé par la case conseil en stratégie dans un cabinet de conseil qu'on ne citera pas. Pourquoi tu n'as pas décidé, donc ton engagement écologique était déjà là depuis un moment, pourquoi tu n'as pas tout de suite décidé de lancer ta boîte? Pourquoi tu es passé par la case conseil? Est-ce que c'était volontaire ou c'est une opportunité qui s'est présentée?
Non, c'est justement, moi je pense que le conseil en fait aide à apprendre énormément de choses parce que ça t'aide à être à l'aise sur beaucoup de sujets assez différents. Et ça t'aide à rentrer dans un rythme assez rapide, parce que dans le conseil, c'est des missions qui sont parfois une semaine, parfois trois mois. Et du coup, ça met quand même dans un état d'esprit, en fait, très, à être à l'aise sur beaucoup de sujets très variés et être très efficace. Et moi, j'ai énormément appris dans le conseil. Après, il y a beaucoup d'aspects négatifs, c'est pour ça que j'ai fait que trois ans. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire ce que j'ai fait après.
Et est-ce qu'en commençant le conseil, tu avais déjà l'idée de plus tard monter une entreprise ou tu t'es engagé dans le conseil sans trop savoir ce que tu voulais faire après?
Ouais, si, justement. Moi, j'y allais un peu comme une formation pour apprendre à lancer une entreprise plus tard. Parce que je trouve que le conseil est très formateur parce que tu vois un peu toutes les fonctions de l'entreprise. Tu vois la R&D, tu vois les opérations, tu vois le marketing, tu vois le commercial, tu vois la finance. Tu vois toutes ces problématiques-là. Et il n'y a pas beaucoup de métiers, en fait, à part être entrepreneur, justement, où tu es confronté à toutes ces problématiques dans une même journée.
Et si c'était à refaire, du coup, tu le referais, tu repasserais par la case conseil. Tu trouves que ça t'a apporté quelque chose pour lancer Les Nouveaux Fermiers?
Ouais, en tout cas, le... oui, je sais pas si je referais, c'est toujours difficile de regarder en arrière, mais c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un mélange de avant une expérience en fait de 6 ans vraiment en R&D où j'ai beaucoup compris comment fonctionne la R&D, comment on peut être rapide et efficace. Et après, le conseil m'a aidé en fait à être à l'aise sur un peu tous les sujets classiques d'une entreprise. Et du coup, pour moi, en tout cas, c'était super utile.
Ok, je comprends. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as rencontré ton cofondateur.
C'est ça.
Je ne me trompe pas.
Exactement.
Et du coup, vous en avez discuté ensemble et vous avez décidé de partir de votre boîte de conseil pour monter votre entreprise ensemble.
C'est ça. Nous, en fait, on était potes à la base. Et petit à petit, on a commencé à se motiver en fait, pour lancer un projet ensemble. Et on réfléchissait à plusieurs idées. À chaque fois, on réfléchissait à des sujets qui étaient liés à l'environnement, de près ou de loin. Et en fait, on s'est rendu compte que sur l'alimentation, tous les postes en fait, des émissions de carbone dans le monde, l'alimentation, c'est un de ceux qui est le moins travaillé, alors que c'est ceux où il y a le plus d'un, enfin, il y a un énorme impact, 15% côté viande. Et en plus, à titre individuel, justement, il y avait une étude des shifters qui montrait ça, à titre individuel, la première chose qu'on puisse faire, en fait, pour minimiser son impact carbone, c'est de changer son alimentation. Et 25% de son bilan carbone personnel, c'est lié à l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose, en fait, à chaque repas. Bah, chaque repas, tu peux décider ce que tu vas manger, alors que voilà, tu vas pas pouvoir fermer les centrales à charbon en France. Enfin, ça dépend qui t'es, mais c'est plus difficile. Alors que choisir ce que tu manges à chaque repas, tu peux le faire. Et c'est pas du tout suffisant. Hein. Enfin, je veux dire, il faut pas trop responsabiliser les gens à dire qu'il y a que chacun doit faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une des choses qu'on peut faire pour que ça aille dans le bon sens.
Moi, je suis complètement alignée avec ça, j'ai conscience et on parle beaucoup des consommateurs. Comment tu justifies ou pourquoi, selon toi, aujourd'hui, c'est toujours l'alimentation, c'est toujours un secteur qui n'a pas été très développé et où les gens continuent encore en France à beaucoup manger de la viande ou du poisson par rapport d'ailleurs au reste du monde?
Je pense que c'est la tradition. Justement, il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est que je me suis rendu compte que la France, on est le deuxième consommateur de viande en Europe. Et je pensais pas, en fait. Moi, avant, il y a 10 ans, je pensais vraiment que les Français étaient plutôt actifs d'un point de vue climatique et environnemental. Et justement, on n'est pas forcément des bons élèves à la fois en Europe, mais aussi dans le monde. Et donc, on consomme notamment beaucoup de viande. Et tout ça, c'est le poids des traditions. Et nous, il y a beaucoup de chefs, en fait, français qu'on est allé voir au tout début. On n'était pas forcément bien reçus. Parce qu'ils disaient, un repas, c'est une viande. Le plat principal, il faut qu'il y ait de la viande, et c'est la base, en fait, c'est la viande. Et on est allé en voir beaucoup, justement, avec le prototype, qui au début était assez réticent, et quand il goûtait, c'est vraiment, en fait, quand il goûtait que ça marchait. C'est pour ça qu'on fait tout le temps goûter nos produits, en fait. Quand les gens goûtent, en fait, nous, c'est gagné. Et y a beaucoup de chefs où, voilà, tu vois, au début, c'était un peu réticent. Ils goûtent, ça fonctionne. Après, ils nous demandent toujours qu'est-ce qu'il y a dans les produits, comment on a fait tout ça. Et ça leur plaît. Et après, ils les mettent en restaurant.
Vous avez passé du temps du coup à les développer. Comment s'est passée cette phase de développement? Comment aussi vous êtes financé pendant cette phase de développement?
Donc qu'est-ce qu'il y a dans les produits? C'est la base, en fait, c'est la protéine végétale. Donc c'est ça qui fait la structure, en fait, du produit, et c'est ça qui permet d'être aussi riche en protéines que la viande. Donc on a la protéine de pois, du petit pois, du soja, du blé, de la fèvre. C'est toujours soit français, soit européen, bien sûr sans OGM. Après, on a des huiles, donc l'huile de tournesol, du colza, de l'olive, parce que c'est toutes des huiles faibles en gras saturé, qui est le mauvais gras, justement, donc on cherche à ne pas en mettre. Il y a la betterave, par exemple, pour la couleur du steak, et ça devient, en fait, c'est rouge, et du coup, ça devient marron en cuisant, et les arômes naturels, et donc ça, c'est ça qui donne le goût, en fait, qui donne l'illusion du goût de la viande, même si c'est pas de la viande. Et ça, c'est tous les ingrédients un peu qui font la base de nos produits. Sur ta question de, au début, comment on s'est financé? Au début, on s'est autofinancé. Et au tout début, en fait, on s'est autofinancé. Au tout début, c'était Cédric et moi qui étions en cuisine à faire des steaks. Les premiers n'étaient pas super. Mais au fur et à mesure, en fait, on s'est beaucoup amélioré. Et c'est une fois qu'on a eu un prototype un peu stable, qu'on est allé voir ces anciens entrepreneurs pour qu'ils nous financent et qu'on puisse se lancer.
Et pendant toute cette phase un peu de développement et de test, est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté, où vous vous êtes dit, mais en fait, on ne va pas y arriver, c'est pas possible de faire des steaks végétariens qui soient goûteux, bons, agréables à manger?
Il y a toujours des doutes, mais je pense qu'in fine, c'est surtout une décision. C'est en fait, on savait qu'au début, c'était un peu risqué pour nous de se lancer là-dedans. on a décidé et de voir si ça allait vraiment marcher. Il faut pas abandonner au bout de deux jours. Et en fait, dès qu'on a vu que ça commençait à prendre, on avait plein de retours positifs. Et du coup, ça nous stimulait énormément pour continuer.
Ok, bah déjà bravo, hein, c'est super. Et comment tu peux justifier, parce que c'est vrai que les végétariens, ça date pas d'hier. Mm-hmm. Comment on peut justifier le fait qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de produits qui soient bons et goûteux? Mm-hmm. Pourquoi personne s'est avant lancé sur ce sujet?
En fait, je pense que il y a plusieurs choses. Il y a une des choses qui, en fait, en France, il y a beaucoup de grands groupes agroalimentaires qui fournissent en fait la base de ce qu'on mange au quotidien et qui des fois peuvent être un peu loin en fait du consommateur, à oublier un peu qu'est-ce qui compte vraiment pour les consommateurs. Et nous, la base, c'était le goût et la santé. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment voulu travailler à la fois sur le goût et la santé. Avant, justement, il y avait soit des entreprises qui se focalisaient sur le goût, mais un peu au détriment de la santé, plutôt les Américains, typiquement, pour pas les citer. Et à l'inverse, il y avait des groupes qui faisaient des trucs très santé, mais qui nous, on trouvait immangeables. Et nous, on s'est concentré justement sur l'aspect goût et santé. Et donc, on a déposé des brevets, on a vraiment développé de la technologie sur l'aspect goût et santé, parce que nous, ça nous semblait essentiel.
Ok, et aujourd'hui, vous avez combien de produits différents?
Alors, aujourd'hui, on en a 8. Et donc, on a des steaks et du haché. Steak, tu vois, plutôt en burger. Haché, ça va être en lasagne, en bolognaise, en tomates farcies aussi. Il y a des chefs qui font des tomates farcies. Après, tu as des aiguillettes, où là, on en a plusieurs types. Mais donc, tu peux les utiliser pour faire un curry. Juste rissolé comme ça avec des champignons, avec des oignons, c'est super bon. Il y a des nuggets, c'est très simple. Et merguez et chipolata. Et donc ça, c'est nos petits derniers. Et justement, on trouvait que les merguez et les chipolata ont super bien fonctionné, par exemple. On est parti en rupture de stock au lancement. Tout a été commandé super vite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les merguez et chipolata, c'est typiquement l'archétype de la version viande d'un point de vue santé, c'est pas fou. C'est pas le meilleur de la viande qu'on met dans la saucisse, clairement. Donc c'est pas fou d'un point de vue santé, c'est très transformé, il y a beaucoup d'additifs. Et en plus, d'un point de vue goût, en fait, dans une merguez, ce que tu sens, c'est les épices, en fait. Tu sens pas le goût de la viande. Tu sens le piment de Cayenne, et donc c'est pour ça qu'on arrive très bien, en fait, en végétal, à faire vraiment l'illusion d'avoir une merguez, alors que c'est une merguez végétale.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez vos clients? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont végétariens et qui cherchent du coup des substituts à la viande? Ou est-ce que est-ce que vous avez aussi des clients qui mangent de la viande, qui aiment ça et qui décident
de... Non, on a une très grande variété de clients, justement. Et ça va des véganes qui vont vraiment jamais toucher à tout ce qui vient de l'animal, jusqu'à des gens qui pourtant aiment beaucoup la viande et qui sont un peu curieux de diversifier leur alimentation. En France, en fait, les végétariens, c'est quelques pourcents, en fait, des Français. Donc, c'est pas beaucoup de gens. Par contre, les flexitariens, donc ceux qui cherchent à diminuer leur consommation de viande, c'est 41% des Français. Donc, t'as quand même presque une personne sur deux en France qui dit « je veux manger un peu moins de viande » et qui est intéressé, du coup, par ce qu'on fait. Parce que c'est des gens qui aiment le goût de la viande et qui veulent pas s'éloigner, en fait, du goût de la viande, qui aiment le goût de la viande, mais qui aimeraient en manger moins.
Et aujourd'hui, vous êtes présent en grande surface, vous êtes présent dans toutes les villes en France, dans certaines villes?
Aujourd'hui, on est présent dans... Du coup, c'est un peu... On est dans à peu près toutes les grandes villes. On est dans certaines plus petites villes aussi de province. Et justement, en fait, il y a des gens qui pensaient que c'était un truc de bobo parisien. C'est une caricature. Il y a beaucoup de gens qui ont ça en tête. Et pas du tout, en fait.
Okay.
On voit que ça fonctionne très bien en province. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était plutôt des gens un peu aisés qui allait acheter ce type de produit. Pas du tout. On a fait une enquête consommateur, on s'est rendu compte. En moyenne, les gens qui nous achètent gagnent moins que la moyenne. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est soit des gens par conviction. Et donc, en fait, quand on a des convictions, bah, mettre 50 centimes de plus pour acheter un produit, bah, on les met, quoi. Et c'est pareil pour la santé. Enfin, on est prêt à mettre 50 centimes de plus, même si on n'a pas des revenus très élevés. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une très grande variété de consommateurs.
Ok. Et est-ce que vous avez les chiffres sur les villes de province ou les villes en dehors de Paris, lesquelles fonctionnent mieux que d'autres?
En fait, c'est pas tant par ville, C'est plutôt par quartier. Tu vas avoir des quartiers où ça tourne très bien, et ça dépend notamment de l'âge. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de consommateurs qui sont jeunes que qui sont moins jeunes. Donc tous les quartiers où il y a beaucoup de jeunes, ça marche super bien. Après, on a à peu près autant de femmes que d'hommes. C'est assez équilibré.
C'est intéressant. Et du coup, tu parlais, c'est vrai qu'on n'a pas l'image de la nourriture végétarienne ou végane qui est plus, où les personnes aisées sont les plus sensibles. Mm-hmm. Est-ce que ça coûte combien vos produits et par rapport à la viande, quel est le différentiel?
Donc nous, nos produits, ils coûtent entre 4 et 5 euros, les barquettes. Donc ça va entre 150 grammes et 220 grammes. Et du coup, on est un peu plus cher que de la viande de base. Et on est au prix du coup de la viande de bonne qualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a déjà réussi à pas mal baisser nos prix, justement. Et nous, en fait, pour baisser nos prix, on a besoin de volume. C'est toute une affaire de volume, en fait. Plus t'as de volume, il y a énormément de coûts fixes. Donc plus t'as de volume et plus t'arrives, en fait, à baisser les prix. Et aujourd'hui, on est encore, du coup, au prix de la viande de bonne qualité. Mais demain, enfin, ou après-demain, on sera moins cher que la viande. Et une image, c'est pour faire 1 gramme de protéines animales, une vache, par exemple, elle a besoin de l'ordre de 11 grammes de protéines végétales. Donc elle va manger 11 grammes pour faire 1 gramme. Donc c'est pas très efficace, une vache, d'un point de vue purement alimentaire. Alors que nous, en fait, on va directement à la racine.
Oui, tout à fait. Et peut-être pour revenir sur l'impact carbone, donc on disait que la viande, c'était 15% des émissions de CO2 en France et à l'échelle européenne également. Est-ce que vous avez une idée de l'impact carbone de vos produits?
Oui, complètement. Donc nous, en moyenne, on fait 11 fois moins de CO2 qu'une viande traditionnelle. 1 kg de viande de chez nous fait de l'ordre de 2-3 kg de CO2. Là où 1 kg de viande fait de l'ordre de 35 kg de CO2. Ça dépend un petit peu des types. Là, je parlais de la viande rouge. Ça dépend un peu après des types de viande, mais en moyenne, c'est ça. Et en fait, et ça, c'est l'analyse sur le cycle de vie, donc ça inclut les packaging, la fin de vie, tout ça. Le point, en fait, la viande génère beaucoup plus de CO2, c'est sur deux postes. C'est l'alimentation du bétail. Et donc ça, l'essentiel de ce qu'on mange, ça reste de l'élevage intensif. Enfin, notamment en grande distribution, par exemple. Et l'élevage intensif, c'est là où, du coup, il y a besoin de beaucoup nourrir les animaux avec typiquement du soja. Ou d'autres, du blé aussi par exemple, ça peut être du maïs, ça peut être plein de choses, et du coup ça fait que c'est un cycle qui est pas efficace du tout d'un point de vue protéinique, et où on donne beaucoup de protéines végétales aux animaux pour en faire pas beaucoup de protéines animales. T'as ça qui est le gros poste, et le deuxième poste, mais donc ça dépend un peu des types d'animaux, c'est surtout pour les bovins, c'est la fermentation entérique, donc les pets de vache. Et c'est pas un mythe, en fait, ça fait vraiment beaucoup de CO2 pour du méthane. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à dire ça fait 11 fois moins. Et ça, c'est une étude indépendante, c'est pas nous qui le disons. Ça, on fait 11 fois moins de CO2 à peu près.
Non, c'est super intéressant, donc c'est bon pour la santé, pour l'écologie. Donc c'est super. Et aujourd'hui, comme tu le disais, vous êtes présent dans plusieurs restaurants. Est-ce que du coup, tu as l'impression que c'est un petit peu le début d'une transformation des habitudes de consommation, pardon. Et est-ce que. Enfin, et selon toi, qu'est-ce qui manque d'un point de vue peut-être politique ou légal pour que ça se diffuse à l'ensemble de la société?
C'est une bonne question. Sur ton premier point, nous, le changement qu'on a vu, c'est qu'au début, les restaurants qui nous distribuaient, c'était plutôt des restaurants un peu justement un peu à la mode, ou un peu des il y avait PNY, l'Artisan du Burger, Camus qui fume, que des enseignes un peu comme ça, un peu iconiques, qui vont du coup chercher un peu les dernières tendances. Et donc c'est très bien parce que justement c'est là où il y a de la qualité. Et alors que là on rentre dans une deuxième vague. Maintenant il y a beaucoup de restaurants traditionnels, tu vois la brasserie un peu de ton quartier, et où dans les brasseries très traditionnelles maintenant on est en train de rentrer, et il y a beaucoup de restaurants maintenant très traditionnels qui nous appellent, et ça pour nous c'est un super bon signe, parce que ça veut dire que ça devient entre guillemets banal, dans le bon sens du terme, c'est que ça devient normal en fait d'avoir de la viande végétale dans les restaurants. Et donc ça, pour moi c'est un super point positif. Et après côté, est-ce que la France en fait a tendance à, sur le point de, est-ce que la France fait en sorte de stimuler entre guillemets cette filière, c'est très antagoniste en fait, parce que d'un côté, t'as T'as Macron qui va dire, ou ses ministres qui vont dire, il faut développer le végétal, c'est génial, filière de la protéine végétale, c'est super, il faut mettre plus de végétal dans l'assiette. On fait passer la loi pour avoir du végétal une fois par semaine dans les cantines, tout ça. Donc très positif. Et à l'inverse, t'as des cadres en fait réglementaires assez les plus stricts en fait au niveau européen. Ou en France par exemple, il y a une loi qui voudrait interdire d'appeler un steak végétal un steak végétal. On pourrait trouver un autre nom. Et ça par exemple, du coup, c'est une loi qui va très contre en fait la filière. Alors que enfin, il y a que en France où il y a ça. Dans tous les autres pays européens, c'est autorisé.
Et pourquoi ils veulent pas l'appeler, pardon, si je t'ai coupé, pourquoi ils veulent pas appeler un steak végétarien un steak végétarien? C'est quoi? C'est des lobbying?
Il faut leur demander, mais, mais pourquoi, en fait, c'est qu'ils disent que les consommateurs peuvent être trompés. Que peut-être qu'un consommateur va penser qu'un steak végétal, c'est un steak de viande. Et que du coup, ce serait trompeur. Nous, notre point, c'est de dire que, il faut pas prendre les gens pour des débiles. Quand on dit un steak végétal, il y a quand même végétal dedans. Il faudrait vraiment être un peu débile pour penser qu'un steak végétal, c'est de la viande dedans. Ça ne m'est jamais arrivé une seule fois qu'un consommateur pense en voyant le packaging que c'est pas de la viande, enfin que c'est de la viande, parce que sinon voilà, tout tombe, ça marche pas pour nous. Sont très puissants en France, ils investissent énormément sur le sujet, c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire passer cette loi. Et donc, c'est un peu antagoniste, quoi qu'il arrive, en fait, moi je pense vraiment que le végétal, c'est le sens de l'histoire, ça va se développer, c'est juste le sens, ça va se développer, c'est nécessaire, donc ça va se faire, c'est qu'une question de temps, et on le voit, et en plus, la France a tout en fait pour être un champion du végétal, parce que on a toutes les types de, on a tous les ingrédients en fait pour faire des alternatives végétales en France. On a la filière des protéines, on a des légumineuses en France, on a du pois, on a du soja, on a du blé, on a toutes les huiles qu'il faut, on a de la betterave, et donc il y a tout en fait pour faire des super produits en France.
Et du coup, tu disais que dans d'autres pays européens, les produits végétaux ils étaient beaucoup plus développés, il y avait un marché qui était existant. Est-ce que tu sais dans lesquels en particulier et comment tu peux expliquer ça?
Ouais. En fait, les pays en Europe où le végétal est beaucoup développé, t'as l'Angleterre, t'as les Pays-Bas, l'Allemagne, un peu l'Espagne, justement, c'est en train de pas mal monter. Et en fait, c'est des pays où il y a plusieurs raisons, et les pays nordiques aussi, et il y a plusieurs raisons. Il y a surtout côté pays nordiques sont assez sensibles au sujet de santé et de planète. Et du coup, ça s'est développé naturellement. Historiquement, il y a toujours eu beaucoup de végétariens là-bas. L'Allemagne aussi est historiquement très très écolo. Et donc, les gens sont beaucoup plus sensibilisés aux problèmes climatiques, environnementaux qu'en France. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de végétariens. Et après, t'as l'Angleterre qui, je pense, n'était pas spécialement un pays super écolo, mais c'est plus que l'Angleterre aime beaucoup tout ce qui est innovation culinaire. Il y a toujours eu beaucoup de... C'est un pays qui est un peu à la croisée de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'innovations à chaque fois culinaires au UK. Et en France, c'est plutôt en France, en fait, où il y a vraiment eu un retard par rapport... Et même d'autres pays, hein, l'Europe de l'Est, la Pologne est un des champions du végétal aussi. Beaucoup de gens pensent que les Polonais n'ont rien à faire de l'environnement. Pourtant, il y a beaucoup plus de végétariens en Pologne qu'en France. Et c'est plus en France, en fait, qu'on a été un peu les mauvais élèves, un peu retardataires. Et je pense vraiment que ça vient des traditions culinaires, où en France, on est très attaché à nos traditions culinaires. et où du coup tout ce qui est innovation sur la nourriture, les gens sont super suspicieux.
Ouais, je comprends. Mais d'ailleurs, tu disais la France, on est mauvais élève sur la viande, mais également sur le poisson. Il me semble qu'on est le deuxième consommateur de poisson au monde, ce qui paraît Est-ce que vous allez également vous attaquer à ce marché?
Ben, on pourrait. Pour l'instant, nous, on s'est plus concentré sur la viande. Mais après, il y en a besoin sur le poisson, il y en a besoin sur le lait, il y en a besoin sur les fromages. Nous, on peut pas tout faire. Mais par contre, oui, il y en a besoin. Et en fait, sur le poisson, en fait, il y a aussi toutes les problématiques de surpêche, clairement. Oui. Donc, il y a un vrai sens.
C'est vrai. Et on peut peut-être revenir juste sur du coup le début du lancement des nouveaux fermiers. Du coup, si je me trompe pas, vous êtes lancé juste avant le Covid.
Pendant le Covid.
Oui, pendant le Covid. Comment on appréhende ça? Comment on appréhende du coup une telle crise climatique quand on vient tout juste de se lancer, qu'on vient de faire une levée de fonds, qu'on vient de recruter des nouveaux salariés?
Bah alors, ça nous a pas arrangé, c'est sûr. En fait, ce qui se passe, c'est notre lancement commercial en grande distribution démarrait le lundi du confinement, en mars, là.
Timing parfait.
Et du coup, la grande distribution nous a appelé pour dire, on arrête tout. En fait, c'est pas possible. On a des priorités à gérer. Le végétal, on en fera plus tard. Là, il faut faire des pâtes. Et c'était pareil en restauration. Restaurant, c'était le même lundi. Donc en fait, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté un peu ce lundi-là. Et en fait, il faut toujours rebondir en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a lancé un site de e-commerce en quelques jours. En fait, c'est assez rapide de lancer un site de e-commerce. Et du coup, on a envoyé, en fait, on a eu des commandes un peu aux quatre coins de la France pour tester nos produits. Et donc, on a envoyé des produits à plein de gens. Et c'est ça qui nous a aidé à nous faire connaître. Parce que du coup, les gens ont beaucoup aimé nos produits. Ils nous ont envoyé plein de commentaires, en fait. Et on a créé une page Instagram. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la page a grandi. On avait des gens qui envoyaient des recettes, qui nous échangeaient beaucoup sur nous en disant, tiens, moi, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. On a créé après un livre de recettes. Gratuit, parce que du coup c'était pas nos recettes, c'est les recettes des gens qui ont cuisiné nos produits, et voilà. Et en fait, du coup, le e-commerce nous a aidé à nous faire connaître. Et après, 2 mois après, une fois que le Covid s'est un peu calmé, si je peux dire ça, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé réellement en grande distribution et en restaurant.
Aujourd'hui, comment tu perçois du coup la suite pour les nouveaux fermiers? Quelles sont un peu vos perspectives d'évolution? Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir un petit peu des challenges en particulier qui vont être plus compliqués
Nous, notre objectif, en fait, c'est on veut vraiment se développer en France. On veut démocratiser, entre guillemets, les alternatives à la viande. Voilà, on a beaucoup fait du bœuf, on a beaucoup fait du poulet. Maintenant, on veut beaucoup aller travailler aussi le porc. Il y a un vrai intérêt sur le porc. Et aussi, on veut que dans chaque type de point de vente, que ce soit un magasin ou un restaurant, qu'il y ait des alternatives végétales. Aujourd'hui, en fait, c'est encore peu le cas. Il y a beaucoup de magasins où si tu vas, ou beaucoup de restaurants où si tu vas, il y a pas de végétal. Et on veut vraiment que ça devienne la normalité, en fait, d'avoir du végétal. Et c'est vraiment nos objectifs, en fait, sur la France. On veut vraiment contribuer à démocratiser la viande végétale en France.
C'est un bel objectif. Bonne chance. Et si tu devais du coup donner un conseil à un jeune entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui dans le secteur plutôt de l'écologie et de l'environnement, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je pense qu'il faut prendre un sujet qui tient à cœur, et où en fait c'est un sujet qui doit être un peu personnel. Parce que quand quelque chose est personnel, on y met beaucoup plus d'énergie, on va beaucoup plus surmonter les problèmes, on va être créatif, on va trouver plein de moyens auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Donc il faut vraiment choisir un projet qui nous tient à cœur, et on pense que c'est un projet juste, enfin, pour lequel on est prêt à se battre, entre guillemets. Et après, une fois que t'es sûr et que voilà, tu t'es dit je me lance, justement il faut y aller, parce que en fait tant que c'est trop théorique, en fait, il y a plein de choses où, en fait, qui vont pas être précises et où tu vas pas forcément savoir comment ça va se passer, etc. C'est pas grave. À un moment, il faut se lancer, et il faut aller de l'avant. Il faut surtout pas s'arrêter au premier problème. Et justement, en fait, s'il y a pas de problème, enfin, ça arrive jamais qu'il y ait pas de problème. Et justement, en fait, c'est dans les problèmes qu'on va faire la différence. Là où il y en a plein d'autres qui vont s'arrêter, en fait, à certains problèmes. Si justement tu persévères, que tu rebondis, que tu adaptes du coup ce que tu fais, c'est là où tu vas réellement créer quelque chose de distinctif et faire la différence.
Et du coup, votre secret pour avoir réussi, c'était quoi? C'était d'avoir toujours persévéré, d'avoir toujours trouvé des nouvelles solutions face au challenge?
C'est une réussite, en tout cas pour l'instant, modérée, hein, parce que c'est vraiment que le tout début. Mais jusqu'ici, ce qui a fait que ça a plutôt bien fonctionné, c'était c'est un sujet qui nous tient à cœur. On est vraiment motivé. Je pense qu'on a une super équipe. Je pense que ce qu'on a réussi le mieux, c'est de trouver les bonnes personnes à mettre dans notre équipe. Et donc, on a clairement une super équipe, en fait, super motivée, super compétente, et super sympa. et beaucoup de chance aussi. En fait, là, il y a quand même, il y a un moment où, en fait, il y a de la chance, ça joue quand même beaucoup. Et des fois, t'as de la chance, des fois, t'as pas de chance. Nous, le Covid, c'était pas de chance, pour le coup. Mais c'était pas de chance pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, ça a touché plus durement que nous. Le facteur chance joue énormément aussi.
Ok. J'avais deux autres questions. Les personnes qui sont aujourd'hui dans votre équipe, c'est tous des gens qui sont engagés écologiquement, qui ont des convictions écologiques ou pas forcément?
Alors, si, clairement, c'est presque un des critères de recrutement. C'est un des critères de recrutement. C'est on veut que la cause touche les gens, parce que du coup, ça fait que c'est personnel et ça fait que ça crée un sentiment d'appartenance qui est très fort. Après, on ne demande pas du tout à toutes les personnes d'être super actives dans plein d'associations, mais on leur demande juste que ça leur parle. Et en tout cas, il y a énormément de gens qui nous contactent en fait sous cet angle-là. Ils nous disent tiens, ça me parle beaucoup, voilà pourquoi je viens.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui t'inspirent ou des modèles de réussite d'entreprise qui vous drive dans le développement des nouveaux fermiers?
C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas si c'est forcément des exemples d'entreprise. Parce que je dis souvent qu'en fait, au-delà d'être une entreprise, on a un projet et on a une vision en fait de qu'est-ce qu'il faudrait faire, à savoir manger plus de végétal. Et il s'avère que le plus simple pour faire ça, c'était de créer une entreprise. Mais des fois, c'est pas forcément le meilleur moyen de créer une entreprise. Et après, des gens qui avaient une vision et qui ont réussi à l'accomplir, il y en a beaucoup dans l'histoire. Mais je sais pas une personne en particulier qui. Pour moi, c'est tous les gens qui sont un peu. Il y en a plein, tu vois, mais nous, on n'est pas du tout. C'est dans des niveaux qui sont incomparables, mais t'as tous les explorateurs, des gens comme Magellan ou je sais pas qui ont des visions incroyables et qui sont allés au bout de leur vision. C'est magique.
Vous venez d'écouter Enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast.